Voici donc votre rendez-vous avec l'accent des autres, comme chaque semaine, c'est l'essentiel de l'actualité francophone de ces derniers jours, avec France Inter, Radio-Canada, la RTBF, la Radio-Télévision Suisse et RFI. Les médias francophones publics vous accompagnent pour un petit quart d'heure. Avec d'abord une France encore un peu plus déconfinée cette semaine, les bars et restaurants ont rouvert leurs portes, mais à certaines conditions. Nous serons dans l'Est, à Mulhouse, l'une des villes particulièrement touchées par l'épidémie. Les bars, restaurants et hôtels rouvrent par contre ce lundi en Belgique. C'est une phase importante du déconfinement qui s'amorce, mais encore une fois sous condition. Il faut aménager les lieux, pas forcément évident. Nous serons dans un restaurant bruxellois. Des mouvements de colère sur le continent africain, mouvements contre les restrictions imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ça a été le cas en particulier au Sénégal ou à Madagascar. La Suisse rouvrira ses frontières à ses voisins et à tous les membres de l'Union européenne dès le 15 juin. L'Italie a finalement obtenu gain de cause pour ne pas être pénalisée dans la relance très attendue du secteur touristique. Enfin, au Canada, les habitants de Montréal ont pu apercevoir une jeune baleine. Elle s'ébat depuis une semaine dans le Saint-Laurent, très loin de son habitat naturel. C'est une première depuis plus d'un siècle. Le trafic fluvial très réduit n'y est sans doute pas étranger. La France poursuit donc son déconfinement ces derniers jours avec la levée de l'interdiction des déplacements à plus de 100 km de chez soi, mais aussi avec donc la réouverture des cafés et des restaurants. Autour de Paris, seules les terrasses et espaces ouverts peuvent rouvrir, mais ailleurs, dans les zones vertes, c'est une réouverture complète. Complète, mais encadrée, 10 personnes par table maximum, la distance sociale évidemment, place assise uniquement, même dans les bars, masque lors des déplacements, comme ici à Mulhouse, l'une des villes particulièrement touchées par l'épidémie. C'est un reportage de Patrick Janton pour France Inter.
On attendait ça depuis longtemps, hein. Puis en plus il y a du soleil, donc la température est top, on en profite.
Tous les clients ont le sourire, une ouverture de terrasse vécue comme une libération, un vrai soulagement aussi pour la patronne du Vanilla Café.
Content de pouvoir reprendre et de revoir nos clients, les habitués. On a bien respecté un mètre entre dos de chaque chaise, bien espacé. Et comme dit, les gestes barrières, les serveurs et tout, désinfecter les tables. Et quand ils circulent dans l'établissement, remettre le masque et des groupes limités à 10 maximum.
Pour le service, les employés ont opté pour la visière. Elle tient chaud, mais elle reste plus commode que le masque pour gérer les commandes. Les habitués étaient présents dès la première heure.
C'est le premier jour aujourd'hui, mais ça fait vraiment plaisir de se revoir. D'autant plus qu'on a parmi nous deux personnes qui ont été atteintes du Covid, donc voilà, dont monsieur.
Côté, c'est formidable, hein. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Surtout qu'on est guéri maintenant, on a le sourire.
À chaque table, son ambiance. Un peu plus loin, deux copines qui ne s'étaient pas revues depuis la mi-mars.
Ça fait du bien, surtout avec le soleil, ça fait longtemps. Oui. Enfin, moi, perso, ça me manquait.
Se retrouver entre copines, au soleil, en terrasse, c'est ça la vie.
Voilà, le secteur HoReCa a donc rouvert cette semaine en France. En Belgique, c'est pour ce lundi une nouvelle phase du déconfinement et c'est une étape importante vers une vie presque comme avant, avec donc notamment les hôtels, les cafés et les restaurants qui peuvent rouvrir moyennant le respect de certaines règles de prudence et ça nécessite pas mal d'aménagements comme l'a constaté Éric Bévert pour la RTBF à Bruxelles.
Roberto et Antonio attendaient ce moment avec impatience, la réouverture de leur restaurant Sardes. Mais d'ici lundi, il faut évidemment adapter les lieux.
1,50 m, largement assez. Voyez.
Ça veut dire que vous avez dû réduire le nombre de tables dans le restaurant ?
On a réduit de 50%, bien fait. Donc ça veut dire, avant on avait 50 couverts, maintenant on va se retrouver avec un petit 25 couverts.
Des tables qui vont changer d'allure, plus rien à voir avec celle d'avant le 13 mars.
C'était la table d'avant qui nous a permis de travailler pendant de nombreuses années, avec effectivement, comme vous le voyez ici, un set, des fourchettes, couteaux, des verres, une serviette en tissu, le sel, le poivre, l'huile d'olive et la carte du restaurant. Ça, c'était avant le confinement. Maintenant, nouveauté, lundi, nous ouvrons notre établissement et voilà comment on va travailler. Set en papier sur lequel nous allons imprimer le menu, sel, poivre, huile d'olive et parmesan en mono usage.
Bref, à part la vaisselle, tout devrait être jetable. Les serveurs devront porter un masque, les clients devront laisser leur nom. Les réservations commencent à arriver.
4 couverts, oui. 20 heures, à quel nom ?
Heureusement, le restaurant a pu assurer un service traiteur pendant le confinement. Le but est de continuer après.
Oui, nous allons continuer les deux pour la simple et bonne raison que rien qu'avec le restaurant, ce n'est pas assez, c'est pas vivable.
Autre espoir pour sauvegarder la rentabilité de l'établissement, la terrasse.
C'est une frustration. On a eu trois beaux mois de soleil en confinement. Et maintenant qu'on ouvre lundi, on attend le soleil, il ne vient pas, la pluie. C'est assez frustrant pour nous. Effectivement, on avait la terrasse qui est en préparation, comme vous voyez. Bon, mais on n'attend plus que le beau temps.
On croise les doigts évidemment pour la météo, mais en tout cas, ce ne sera pas évident pour tous les restaurants et cafés. Certains gérants ou propriétaires hésitent à ouvrir et se demandent si cette nouvelle donne leur permettra vraiment de gagner leur vie. C'est aussi ce qu'on a entendu parfois ces derniers jours sur le continent africain, Amélie Tulé, avec des mouvements de colère contre les restrictions imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.
Oui, à Madagascar, par exemple, la grande île de l'océan Indien à l'est du continent, à Tamatave, deuxième ville et capitale économique du pays, mercredi, un homme a été frappé par des forces de sécurité parce qu'il ne respectait pas le confinement. Cela a déclenché un mouvement de colère dans la ville. Des affrontements ont eu lieu. Les habitants répètent que le confinement est trop contraignant, qu'il met en péril l'activité économique. Le déploiement de renforts sécuritaires a aussi été perçu à Tamatave comme une provocation.
Et puis des tensions liées aux restrictions aussi au Sénégal cette semaine.
Oui, pendant deux jours, plusieurs villes du Sénégal ont été théâtre de manifestations contre l'état d'urgence. Là encore, les habitants disent que s'ils ne peuvent plus se déplacer, s'ils ne peuvent plus travailler, c'est leur survie immédiate qui est en danger. Les autorités sénégalaises ont finalement assoupli les mesures de restriction. Le couvre-feu est moins long, les transports entre régions sont de nouveau autorisés et les restaurants et salles de sport peuvent rouvrir.
Oui, cela dit, le virus est toujours bien présent sur le continent africain, Amélie, et certains redoutent un scénario catastrophe.
C'est le cas du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Il fait le constat qu'à Abidjan, sur les grands marchés ou dans les transports en commun, les distances entre individus et le port du masque sont peu respectées. Il parle d'un relâchement et rappelle que cela signifie que le virus va continuer à se transmettre. Il appelle les autorités à renforcer les mesures de protection.
Et des mesures de protection qui restent évidemment d'application un peu partout. Les suites à présent de cette décision unilatérale de l'Italie. Elle avait décidé de rouvrir ses frontières le 3 juin. Décision qui s'est peut-être révélée efficace parce que, contrairement à ses premières intentions, la Suisse rouvrira finalement ses frontières avec tous ses voisins et avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne dès le 15 juin, Pierre Anchoffa.
Vous vous en souvenez peut-être, mais la Suisse voulait donner la priorité à la France, l'Allemagne et l'Autriche. Vu sa situation sanitaire plus compliquée, l'Italie aurait dû patienter jusqu'au 6 juillet. Entre-temps, Rome a donc ouvert son versant de la frontière, c'était mercredi. Et deux jours plus tard, les ministres de l'Intérieur des États Schengen, y compris la Suisse, se sont mis d'accord. Ce sera une réouverture globale dès le 15 juin au sein de l'espace Schengen, élargi aux autres membres de l'Union européenne.
Reste, Pierron, que l'Italie a bel et bien pris de l'avance sur ce calendrier.
Rétrospectivement, la démarche unilatérale du gouvernement Conte s'avère un coup politique efficace. Elle, en quelque sorte, poussée à cette ouverture coordonnée au sein de l'Union, avec la Suisse au cœur de la potentielle transhumance estivale vers le sud, proche de la Lombardie, foyer de l'épidémie en Italie. Le canton du Tessin a payé un lourd tribut au coronavirus. Il s'est donc fortement inquiété de la démarche italienne. La Confédération a toutefois renforcé les contrôles à la frontière sud pour filtrer ceux qui voudraient venir d'Italie. Et seuls les voyageurs au bénéfice d'un permis d'établissement ou d'un permis de travail peuvent passer, du moins jusqu'au 15 juin.
Alors vous parliez de transhumance vers le sud, Pierron, l'enjeu touristique est évidemment bien là en filigrane.
Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le tourisme pèse pour plus de 10% dans le produit national italien. Élu socialiste, Adam Ara a la double nationalité suisse et italienne.
Chaque pays en Europe joue ses intérêts touristiques. Il y a un intérêt pour les Italiens évidemment à ouvrir les frontières, mais il y a aussi un intérêt pour les autres pays à garder les touristes chez eux, puisque nous savons que c'est un secteur malmené, le tourisme. C'est pour ça que j'espère que les questions vont être sanitaires et non pas une concurrence économique touristique.
Cette ouverture coordonnée des frontières peut donc rassurer Adam Ara sur ce point.
Voilà donc pour la situation à la frontière suisse. On va se quitter cette semaine au Canada avec cette première depuis plus d'un siècle, Manon Globinski. Une baleine à bosse a élu domicile depuis une semaine dans le fleuve Saint-Laurent au pied du Vieux-Montréal.
C'est une jeune baleine de 2 ou 3 ans qui n'a pas encore atteint ses 13-14 mètres de taille ni ses 50 tonnes de poids, mais qui impressionne quand même par ses sauts spectaculaires et sa grande queue qui ressort à chaque plongée. Personne ne se souvient d'avoir vu ce grand cétacé là parce que la dernière fois, c'était apparemment il y a 119 ans, qu'il a fallu que cette baleine à bosse nage plus de 400 km à contre-courant depuis l'estuaire et qu'elle survit pour le moment en eau douce, ce qui n'est pas son élément. Les scientifiques pensent qu'elle a été désorientée pendant la migration estivale et que le trafic fluvial réduit en ces temps de COVID-19 a ensuite favorisé son escapade.
Et les Montréalais sont fascinés au point d'en oublier la pandémie de coronavirus.
Certains l'ont surnommé Willy, même si on sait que Willy est un orque. Et comme on peut très bien l'avoir de la rive, le spectacle a attiré beaucoup de familles qui en oublient même de porter le masque sur le quai achalandé. Certains tentent de s'approcher en bateau, mais la distanciation physique s'applique aussi. Ce n'est pas 2 mètres, mais bien 100 mètres qu'il faut respecter. Des rapides empêchent maintenant la baleine d'aller plus en amont et les scientifiques voudraient qu'elle reparte d'elle-même et retrouve l'eau salée. On pourrait essayer de la guider avec des cris enregistrés de rorqual, mais cette tactique a ses limites.
Voilà, on va donc se quitter à Montréal, dans le Saint-Laurent. Merci Manon, merci à tous. C'était donc l'accent des autres, l'actualité francophone de la semaine avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellent week-end et rendez-vous, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.